Alors quand je dis les petits, parce que vous êtes beaucoup, beaucoup plus jeunes que moi, mais j'ai plutôt envie de dire, au vu de ce qu'on a lu, de ce que j'ai lu de vous, que il faut que je vous parle mieux que ça. Ce qu'on a à faire, c'est-à-dire que le thème de la rencontre, c'est Révélation 2022 et que le programmateur ne s'est pas trompé. On a là la relève de la littérature. Alors, je pense qu'on vous a déjà fait le coup plusieurs fois depuis la rentrée littéraire. Vous, Nathan, comme il y a eu un premier roman sur les... C'est le quatrième livre que vous publiez, mais c'est que le deuxième roman, c'est celui normalement qu'on prétend être le plus difficile. Vous nous raconterez comment ça a été pour vous. Je vous laisserai dire de quoi il s'agit, mais c'est vraiment une satire du monde qui vient. Que vous avez brossé et pas totalement dans le vide puisque on a déjà eu des on est dans le méta le métaverse qui arrive, mais on a eu Second Life, on a eu les Sims, on a eu quand même des tentatives de vie virtuelle, donc vous nous en parlerez. Ce sont les liens artificiels publiés aux éditions Albin Michel. À côté de vous, Maria Larrea, Les gens de Bilbao naissent où ils veulent, chez Grasset. Là, c'est une histoire de filiation, d'identité. On va dire que quand même l'identité, quelle que soit la manière dont c'est traité, fait partie de vos trois démarches. Et vous, Maria, c'est un vrai premier roman. Et avec un micro. C'est mieux, hein ? Ouais, micro.
Oui. Ah, c'est bien. Bonjour. Oui, c'est un vrai premier roman. C'est pas une première écriture, parce que je viens du cinéma et j'ai écrit des scénarios, mais c'est un vrai premier roman. Ouais. Voilà.
Et à côté de vous, Guillaume Périou, ils vont tuer. Ah oui, mais moi j'ai le livre, donc j'ai envie de dire ils ont tué. Ils vont tuer vos fils, publié aux éditions de l'Observatoire. Pareil, peut-être l'identité, mais un fond social aussi très fort sur la manière dont la psychiatrie et surtout la différence sont appréhendés dans notre beau pays de tolérance. Avant toute chose, puisqu'il s'agit des révélations, j'ai envie de vous proposer de nous lire un petit extrait parce que vous avez vraiment des langues fortes. Donc ce sont des extraits qui ne racontent pas l'histoire, donc rien ne sera divulgué, vous allez rester sur votre intense frustration, mais vous allez sentir se développer la force de la langue de chacun d'entre vous. Alors on fait comme à l'école, tu passes à ton voisin. Et peut-être que... Bon, on va commencer par Guillaume. Vous me les rendrez, ils sont à moi.
Dans l'enfance, l'ennui rampait partout, le dimanche comme le lundi, dans la peine comme dans la gaieté jamais franche qui surveillait son ombre. Je me suis demandé d'où venait cette affliction hors de mon goût peu prononcée pour la vie, parce que je pense que plus on aime la vie, moins on s'ennuie, mais peut-être que je me trompe. Parfois, je me disais aussi que j'étais plus intelligent que les autres, comme les gosses surdoués en classe, et puis aussitôt, je redescendais et me disais que ça n'avait rien à voir, qu'on peut sûrement être abruti et se faire chier aussi. L'ennui s'accompagnait du peu d'attrait que j'avais pour écouter les autres. On sait ce que va dire quelqu'un avec qui l'on discute pour la première fois, les petites conversations sans intérêt, on sait où il va et on va dans la même direction et on s'emmerde avant de prononcer les mots que l'on ne veut pas prononcer et que l'on formule par convenance, par habitude, par lassitude. On participe, malgré soi, à un jeu que l'on n'aime pas. En parlant de jeu, je me souviens d'un jour d'été, j'ai le besoin de retrouver des souvenirs, m'assurer que ma mémoire fonctionne encore. Je devais avoir 12 ou 13 ans, le jeu consistait à trouver chacun son tour un mot autour d'un thème. Un après-midi bien déglingué, je me demande quel âge on avait pour être si vieux, étais-je aussi chiant qu'eux. Quelqu'un avait lancé le thème PD. Je me rappelle les réponses, folle, tarlouse, chou-fleur, pousse-crotte. Moi j'avais dit marais, et ça avait fait rire tout le monde. Eh, tu t'y connais, on dirait. J'y pense parce que c'est peut-être le fait d'être gay au fond qui fait que l'on s'emmerde. Au-delà du fait que le mot « gay » soit inapproprié, les homos sont dépressifs, n'importe qui le serait à moins avec tout ce qu'on se prend dans la gueule, du moins les moins chanceux deviennent alcooliques ou tombent dans le chemsex, mais c'est une autre histoire. Comment ne pas rejeter un monde qui n'est pas le nôtre ? En vouloir à la terre entière, à commencer par ses parents, se sentir inadapté à côté de la plaque, un peu là, surtout ailleurs. Les enfants hétéros sont attendus, le monde les attend, On espère rencontrer la première copine du petit garçon. On veut qu'il en ait une dès la maternelle. D'ailleurs, vous avez remarqué le nombre de parents qui demandent à leur fils de 3 ans « Alors Malo, comment elle s'appelle ta copine ?»« Alors Benjamin, c'est qui ta chérie à l'école ? C'est Chloé ou Mélanie ?» On apprend aux enfants à tomber amoureux. On est impatient de les marier, qu'ils en aient à leur tour. On espère laisser à travers eux une part de nous-mêmes. Face à cela, le lot commun des homos est de se réinventer. On essaye de se rassurer dans la marge à laquelle on appartient quand on comprend qu'on n'aura jamais la même vie qu'eux, nos parents, ou peut-être un truc qui y ressemble, mais jamais vraiment. C'est une connerie de croire le contraire. On se dit qu'au moins, on n'est pas comme tout le monde, qu'on a le mérite de chercher un autre chemin, que le moment venu, on leur crachera à l'arrêt. Tout cela étant, l'ennui n'est pas bien grave, c'est même un des mots les moins graves qu'on ait à supporter. C'est écrit dans Sodome et Gomorre, mais Proust écrit parfois n'importe quoi.
Guillaume, est-ce que vous pouvez nous dire, là on vient de faire la connaissance avec votre narrateur, de qui s'agit-il ? En tout cas, c'est pas vous.
Non, c'est pas moi, effectivement. Le narrateur s'appelle Guillaume, comme moi, il est breton comme moi, il affirme son homosexualité. C'est un jeune garçon, un jeune adolescent qui, au fur et à mesure du temps qui passe, s'identifie aussi en tant que femme parfois. Il développe un alter ego qui s'appelle Raffaella, du nom d'une chanteuse qu'il aime bien. Et c'est un alter ego qui ne passe pas, que le foyer dans lequel évolue ne comprend pas.
Il a 15 ans, hein, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. Et qui va, amener la justice à l'enlever de la garde de sa mère, chez qui il vit le week-end, les vacances scolaires, la justice disant « C'est sans doute parce que l'influence maternelle est trop forte que ce jeune garçon s'identifie aussi en tant que femme. » Et ça, c'est pas moi qui l'ai au départ inventé, c'est-à-dire que je suis parti d'une histoire vraie, d'un jugement qui a réellement été rendu par le tribunal de Venise il y a 5 ans et qui concernait comme ça un jeune ado enlevé de la garde de sa mère parce qu'il s'identifiait aussi en tant que femme. Et en fait, cette ineptie-là a fait du bruit en Italie et je me suis d'emblée attaché à ce jugement, ce qu'il reflétait pour moi beaucoup de choses. Et je me suis dit d'emblée que je voulais écrire à ce propos et inventer la vie d'un jeune garçon.
Voilà. Qu'est-ce qu'il représentait ? Il représentait beaucoup de choses, vous dites. C'est-à-dire, ça vous a emmené vers quelle direction pour ce livre ?
En fait, ça m'a emmené vers ce que je voulais faire depuis longtemps, à savoir écrire peut-être autour de l'homophobie, pour dire les choses clairement. Et j'y ai vu un point de départ, enfin une porte d'entrée pour évidemment pas écrire sur moi une expérience que je connaissais et que je voulais pas raconter telle quelle, mais voilà, peut-être à travers ce que moi-même j'avais connu, voilà, écrire sur quelqu'un d'autre et donc sur les autres, quoi, sur ceux qui sont concernés.
Qu'est-ce qui le fait arriver dans un hôpital psychiatrique ? C'est quoi le, je porte des robes passe de temps en temps et je me retrouve en HP. On est à quelle époque là ?
En fait, comme personne ne le comprend, personne n'accepte cette identité double ou fluctuante ou non rangée. Bien tout simplement, comme souvent, quand on est mal dans sa peau, on ne l'est pas. Parce qu'on l'est intrinsèquement, mais parce qu'il y a du rejet, parce qu'il y a du jugement, et le rejet des autres, évidemment, l'amène, en fait, tout simplement à arriver dans un hôpital psychiatrique pour soigner ses angoisses, pour soigner son intranquillité due à tout ce rejet.
Je voudrais que vous nous parliez, alors on ne va pas raconter ce qui se passe dans le livre, mais le titre « Ils vont tuer vos fils » qui sonne comme une alarme très forte, elle correspond à un regard que vous portez sur la société, sur la manière dont la judiciarisation et la psychiatrisation façonnent le rapport au monde.
Oui, en fait, ils vont tuer vos fils, c'est les traductions de paroles d'une chanson de Lou Reed qui est sortie en 1974 et qui est une chanson dans laquelle Lou Reed raconte les électrochocs qu'ont pratiquait sur sur les jeunes homosexuels. Et je veux dire, là, il s'agit de juste à côté de chez nous, en Angleterre, jusqu'à la fin des années 70, dans certains hôpitaux psychiatriques, on faisait ça, en disant, tout simplement, peut-être que ça va les ramener dans le droit chemin et tout simplement guérir leur homosexualité. Et c'est une chanson que je ne connaissais pas, que j'ai découverte pendant l'écriture et qui m'a frappé en ce sens qu'elle elle reflète en fait ce que traverse le narrateur aussi.
On va y revenir, mais pour l'instant, on va laisser la parole à Maria, qui va se livrer au même exercice que vous. Celui de la lecture. Alors avec vous, on était vers la fin du livre, Guillaume, et là, on est à la toute fin du livre.
Mais pourtant... C'est la dernière page. Je suis née de l'ombre d'une femme. On pourra dire de moi que je suis une bâtarde. Je suis née de l'ombre d'une femme, son secret bien gardé par une suture habile. Ma mère s'est confessée, je suis la mère de la femme dans l'ombre. Elle m'a désignée et elle a dit, c'est elle et elle est là. Elle a reconnu le fruit pourri au pied de l'arbre généalogique. Du tronc imposant, il est resté une minuscule écharde. Elle s'est glissée sous l'ongle de l'index de ma main droite. Le doigt qui tape le plus sur le clavier de mon ordinateur. Infime éclat de bois, glissé entre la matrice de la griffe et la peau fine. Cette subtile douleur me signifie que je suis là et que j'existe dans ce demi-monde. Je veux porter ma chevalière effacée, reprendre conscience de mon existence. J'inventerai mon histoire car les gens de Bilbao naissent où ils veulent, dit le dicton. Ils soulèvent des pierres, ils tronçonnent des arbres, ils sont plus forts que les actes de naissance, les Basques. Je serai ce que je veux devenir, je serai romanesque, je serai ce que j'écris, j'écrirai ce que j'étais. Dans ma nuit blanche, je me droguerai et je verrai mon futur. Je prendrai dans mes bras la femme qui me fit naître de l'ombre et lui pardonnerai ma nuit noire. Grâce à mes recherches minutieuses, historienne du vide, je signerai la biographie de référence sur ma non-vie, sur mes possibles existences et mon royaume fracturé. Avant la fin, je serai couronnée, la bouche pleine de brioches, j'étoufferai. Mes oreilles saigneront des acouphènes du succès. Je serai reine, moi, la femme née de l'ombre. Les étoiles scintilleront et je ne disparaîtrai pas.
Maria, même question qu'à Guillaume. Vous avez aiguisé notre curiosité avec ce qui ressemble presque à une profession de foi, en tout cas à une détermination très forte de votre héroïne qui passe toute une expérience particulière au fil de ce livre. D'où part-on ? Dans votre livre.
D'où part-on ? Alors, j'ai voulu raconter une famille qui est la mienne, mais j'ai vraiment voulu transformer cette famille en fiction, en roman, parce que en regardant la trajectoire de Victoria et Julian, qui sont les personnages principaux du livre et qui sont extrêmement inspirés de mes parents, j'ai voulu comprendre ce qui faisait qu'on était une famille et je trouvais qu'ils avaient des trajectoires. Ce sont deux immigrés espagnols qui sont nés dans les années 40 en Espagne, dans le nord de l'Espagne, en pleine dictature franquiste, dans la misère, dans des milieux très archaïques. Ils sont nés et abandonnés à la naissance, tous les deux. Et ces deux personnes vont se rencontrer et vont tomber follement amoureux. Et ils vont décider de venir vivre en France, voilà, pour travailler, pour fuir la misère de l'Espagne. Et ces personnages me paraissaient dignes de Charles Dickens ou d'Almodovar. Et je voulais raconter leur exil. Je voulais raconter cette Espagne qui me paraissait très moyenâgeuse alors que c'était le mi-temps du XXe siècle. Et aussi essayer de comprendre pourquoi j'étais leur enfant, parce que voilà, il y a deux enquêtes dans le livre, une enquête des origines où je remonte à la naissance de mes parents, et une enquête contemporaine, mais on ne va pas divulgâcher, non ? Voilà, il y a une enquête contemporaine qui se passe de nos jours, donc on va traverser de l'Espagne des années 40 jusqu'au Paris d'aujourd'hui, on va aller beaucoup à Bilbao aussi. promis. et une enquête, voilà. C'était un... La filiation est questionnante dans ma famille. Donc, pour la comprendre, j'ai dû écrire ce livre. Et c'est un livre nécessaire qui est sorti.
Vous disiez tout à l'heure que vous écriviez pour le cinéma.
Oui.
Qu'est-ce qui a motivé l'écriture de choix de l'écriture d'un livre plutôt que d'en faire un court-métrage, un long-métrage ou...
Alors, la petite histoire, c'est que je suis diplômée d'une école de cinéma et quand je sors de cette école qui s'appelle la FEMIS, je commence à écrire un premier scénario de long-métrage. Je suis réalisatrice et scénariste. Et ce scénario était très inspiré de ce qui m'était arrivé dans la vie. Et parce qu'il y a eu j'ai eu un choc très, très violent à l'âge de 27 ans. Et j'ai voulu le raconter tout de suite. J'ai tout de suite voulu me servir de la béquille de l'écriture pour m'aider à vivre le tsunami émotionnel qui m'arrivait. Et ce film a failli se faire. Il a été casté, il y a eu un début de financement. Et pourtant, tout s'est cassé la gueule et ce film ne s'est pas fait. Et j'étais très malheureuse. Mais dans mon malheur, j'avais gagné un prix de scénario et ce scénario a été lu sur France Culture. Et une amie à moi qui est professeure de français a écouté ce scénario lu et elle m'a téléphoné et elle m'a dit « Tu t'es trompée. En fait, ton écriture est romanesque. On va raccrocher, tu vas aller dans un atelier d'écriture et tu vas écrire un roman. » Et je ne sais pas si c'est l'autorité d'une professeure de français, mais j'ai raccroché. Je me suis inscrite à un atelier d'écriture et j'ai commencé le roman. Et en fait, elle a, voilà, c'est ce qu'on appelle une phrase voilà, qui programme une nouvelle vie. Elle a changé ma vie en m'autorisant à être écrivain. Voilà.
Qu'est-ce qui a changé entre... Je tiens à féliciter nos trois invités qui sont sortis jusqu'à pas d'heure hier soir au Cardinal et qui sont tout de même en état de fournir une argumentation de qualité. Mais pour des premiers ou deuxièmes romans, c'était le premier brief, c'est toujours une étape et un bizutage, enfin, une espèce de marquage aussi offert.
Ouais. J'ai des coquilles d'œufs encore dans le dos. Mais...
justement, ce qui est intéressant, puisque vos trois livres vraiment sont très existent beaucoup, certes par leur thème et l'originalité de vos traitements différents, mais par la langue, justement, qui sert aussi l'originalité. Qu'est-ce que vous avez, vous, qui avez donc commencé par écrire ce scénario, le passage à l'écriture du roman, il a fallu trouver donc la langue, et aussi, est-ce que cette langue vous a amené à trouver des éléments d'explication ou à changer votre regard sur cette histoire?
Absolument, absolument. En fait, l'écriture d'un scénario, voilà, un scénario, c'est quelque chose de très sec, de très âpre, ça ne fait pas plus de 100 pages, c'est forcément au présent, c'est un outil de travail, on va se servir d'un scénario pour financer un film, il n'y a pas d'imparfait, de passé simple, d'adjectif, de voix off, ça peut saouler les producteurs, donc en fait, et y a beaucoup de règles dans le scénario, à la 15e page, il faut que l'enjeu se déclenche, etc., etc. Et un scénario, il y a beaucoup de compromis. Les producteurs donnent leurs avis, tout le monde parle au sujet d'un scénario, ça va de main en main, même l'assistante de prod, tout le monde a son avis à dire, c'est très mal mené. Et le scénario tel qu'il était, c'était Frankenstein. Il ne me ressemblait plus, c'était plus l'histoire, ça avait été trop bousculé. Et en fait, quand je commence, quand j'écris le tout début du roman, justement, c'est la langue, le narrateur omniscient, d'être partout à la fois, de pouvoir me balader dans la conjugaison et de pouvoir aller du français à l'espagnol, parce qu'il y a pas mal d'espagnol aussi dans le livre, de pouvoir vraiment me lâcher, quoi. Donc, et à partir de ce moment-là, je me dis, OK, c'est ça. C'est ça qui peut raconter. Et justement, parce que je pouvais aller du français à l'espagnol, du langage ordurier à un langage beaucoup plus soutenu. Et c'est mon histoire, parce que je suis une transfuge. J'ai été élevée par des immigrés espagnols, du prolétariat, dans des très beaux quartiers parisiens, dans des écoles privées, avec des enfants bourgeois. Et j'étais espagnole en France, française en Espagne, quand je retournais en Espagne tous les étés. Donc, il y avait vraiment la question de la place et de l'identité qui était toujours voilà, questionnante. Et au moment de l'écriture, je pouvais être tout ça à la fois. Et de là, c'était une prise de pouvoir.
Et la langue. Liberté, oui.
De langue et oui, de liberté et de pouvoir, absolument. Et sur la narration familiale, mais ça, vous le découvrirez en lisant le livre. Voilà.
Pendant que vous me redonnez mes livres, dans lesquels il y a pas mal d'éléments qui me permettent de vous poser des questions, nous allons laisser Nathan, hop, merci, qui va nous montrer que lui aussi, malgré sa nuit de folie, garde un certain brio intellectuel. Qu'est-ce que vous allez nous lire, Nathan ?
Alors bonjour à toutes et à tous, très heureux, merci pour votre présence. Je n'ai pas eu de nuit de folie, moi, je ne suis pas sorti. Mais voilà. Je vais vous lire le tout début de mon roman.
C'est un deuxième roman, c'est pour ça.
Qui est un poème. Je cherche une autre vie et des songes réels, un mirage charnel, un semblant authentique et des apparitions qui m'ouvriraient les yeux. Je veux qu'un autre monde éclipse enfin le nôtre. Amis ou ennemis, sans jamais nous connaître, nous serons tous là-bas, reliés autrement. Il nous faut effacer la présence des choses, construire un univers plus léger que l'extase, où nous naviguerons dans un réseau d'images. Nous aurons sublimé les abîmes de l'homme, ces deux sombres fléaux, le silence et l'ennui, qui rythment nos espoirs, béances réciproques. Le monde est éprouvant, car il existe mal. Tout en lui configure un brouillon de souffrance. Il est hanté d'un manque impossible à combler. Nous ne demandons rien si ce n'est un ailleurs, et nous nous lèverons vers l'aube qui s'en vient, belle des ascensions qui déjà s'y préparent. J'attends que les humains trouvent leur harmonie, que nous dépassions le joug de la naissance, dérivant sur des ondes idéales et au ciel, éblouis au reflet des choses disparues, suspendus dans le temps ou flottant dans l'éther, nous n'aurons pas de corps et respirerons mieux. Nous allons rehausser notre âme qui étouffe, au jardin du futur s'élabore un zénith, un âge où s'exhaustent tous nos rêves d'hier, un paradis qui naît à l'ombre du néant. Ce n'est pas un serment, c'est une certitude. Nous allons la bâtir, l'humanité qui vient. Il y a un credo dont le monde a besoin. Une simple pensée qui demande à éclore. Un message si pur qu'il en devient brûlant. Je vous le livre ici, presque éteint et sans voix. On ne vit ensemble qu'en étant séparés. Ensemble et séparés, séparés mais ensemble.
Merci. Alors ça, c'est un... ce que vous nous dites, c'est que ce sont les conditions d'utilisation de l'antimonde. Donc le truc là qu'on fait là pour dire...
Oui, comme les règlements des sites. Des
oui, notices. Voilà, c'est ça. Voilà, merci.
Exactement.
Oui. C'est pas ce mot-là, mais oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que cet antimonde et qu'est-ce que c'est que ce règlement ?
Alors, mon roman commence en 2022. Et il raconte l'histoire d'un personnage, on reviendra peut-être sur lui, qui s'appelle Julien, qui est un peu quelqu'un qui est un déçu du réel ou quelqu'un qui a été frustré par le réel et qui est un musicien raté, qui rêverait de composer des chansons, qui a un certain sens de la poésie, et qui est devenu addict aux écrans. Et donc à chaque fois qu'il rentre chez lui le soir, qu'il essaye de composer des chansons, il passe naturellement ses soirées à faire tout autre chose, c'est-à-dire à brûler son temps sur Internet, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, à regarder des bêtises, et avec de plus en plus de mauvaise conscience parce qu'il sent bien qu'il est en train de passer à côté de sa vie. Et c'est dans ce contexte-là qu'un soir, rentrant chez lui toujours aussi désespéré à l'idée qu'il ne va rien faire de sa soirée, il tombe sur une publicité sur Internet, publicité que vous avez peut-être déjà vue depuis, une publicité pour le métavers. Alors le métavers, c'est un univers virtuel, immersif, parallèle, qui reproduit en 3D soit des mondes réels, soit des mondes inexistants. Mais on pourrait tout à fait imaginer que la rencontre que nous sommes en train de faire ce matin puisse avoir lieu dans quelques années, quand les gens en auront assez de faire la fête à Brive et de parler en étant fatigués, qu'elle puisse avoir lieu par avatar interposé, si vous voulez. Et donc, mon personnage va s'inscrire dans ce métavers. Et celui que j'imagine dans mon roman, aujourd'hui on parle beaucoup du métavers parce que Mark Zuckerberg, patron de Facebook, a décidé de créer son métavers, ce qu'il est en train de faire. Ça marche plus ou moins bien, mais en tout cas le projet est titanesque, il a investi presque la moitié de sa fortune, donc il croit énormément dans ce projet. Alors dans mon roman, le métavers que j'imagine n'est pas tout à fait celui-ci. Il s'appelle l'antimonde, donc l'antimonde au double sens du terme. Premier sens pour dire que c'est le contraire du monde, que le principe de ce métavers, c'est de faire vraiment de déplacer la réalité dans un monde parallèle et d'abandonner donc le contact avec les autres, les liens tangibles, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment un moment éprouvant au sens littéral, c'est-à-dire de devoir être passé par l'épreuve du réel, éprouvant mais agréable, hein, c'était pas... Et l'antimonde, au sens deuxième du terme aussi, c'est que c'est un reflet du monde. Et vous savez, quand on se regarde dans un miroir, ce qui est à gauche devient à droite dans le reflet, et réciproquement. Et donc c'est un reflet du monde, au sens où ce monde parallèle réplique vraiment la totalité du monde. Il y a par exemple Brive, dans ce métavers, exactement l'équivalent, le même lieu, etc. Et chacun peut exister à travers un avatar, qui dans mon roman s'appelle un anti-moi, donc encore une fois un double, etc. Et cet avatar, il y a une seule règle, c'est qu'il doit être anonyme. Et donc le point de départ de mon roman, c'est vraiment ça, c'est que je voulais décrire un univers où des gens, évidemment, nous, dans le réel, la définition du réel, c'est que le réel, c'est tout ce qu'on s'interdit de faire, tout ce qu'on n'ose pas faire, tout ce qu'on... Soit on n'a pas l'audace, soit parce que c'est interdit, soit parce que c'est douloureux, soit parce que le réel ne nous a pas offert la possibilité d'accomplir nos rêves. Et donc je voulais décrire un univers où tout le monde peut se donner libre cours, donner libre cours à chacun de ses désirs, à chacune des choses qu'il a pu refouler dans sa vraie existence.
Pourquoi ?
Pourquoi ? Alors, en fait, il y a quelqu'un, il n'y a pas longtemps, qui m'a dit une phrase qui m'a fait très plaisir. Qui m'a dit, mais en fait, votre roman, c'est pas un roman de science-fiction, c'est même pas tellement un roman sur le métavers, c'est un roman, en fait, sur le réel qui est le nôtre, et sur le fait que notre réel... C'est sur les conditions de possibilité du métavers. C'est-à-dire que dans notre réel, que se passe-t-il ? Qu'est-ce qu'il y a comme faille dans notre société, dans notre époque, dans notre monde commun, pour que les gens aient besoin de se réfugier dans des liens virtuels, dans des liens artificiels ? Et d'ailleurs, pas seulement ceux du métavers, ceux des réseaux sociaux, ceux des écrans en général. Alors pourquoi j'ai écrit ce livre ? Moi, je l'avoue, je l'assume. J'ai été vraiment traumatisé de la crise sanitaire. Non pas personnellement, je veux dire, rester enfermé quelques semaines ou quelques mois chez soi, c'est un peu la définition de ce qu'on fait quand on écrit des livres. Ouais. Donc ça ne changeait pas grand-chose pour mon plan personnel. Mais j'ai été traumatisé par la vision, en fait, d'une humanité qui était tout à fait capable de renoncer au réel pendant X temps, quelle que soit la raison d'ailleurs, et de s'enfermer chez elle parce qu'elle avait déplacé le monde ailleurs, et le confinement a été rendu possible parce qu'on avait tous les écrans qui nous ont sauvés, qui ont créé des liens autres que des liens réels. Et moi, c'est vraiment quelque chose, je l'assume totalement, qui m'a profondément marqué, et je voulais absolument pas écrire un roman sur la crise sanitaire, il en est très très peu question dans mon livre, mais je voulais écrire un roman sur l'effondrement, sur la fragilité du réel.
On parle beaucoup en ce moment on réinterroge le contrat social de Rousseau avec cette question qui est liée aussi à l'écologie. Qu'est-ce que c'est que l'homme non perverti ? Est-ce que l'homme à l'état naturel, alors il y aurait beaucoup à dire sur ce qu'est un homme à l'état naturel, en tout cas hors société, l'homme serait bon ou pas ? Ce que j'ai trouvé moi dans votre livre, c'est que l'homme hors configuration sociale et politique déterminée, c'est-à-dire ce que propose cet anti-monde, il est mu de toute façon, et quelle que soit sa place, par une intense volonté de puissance. J'ai trouvé que c'était un livre sur la volonté de puissance, qui est inhérente à chaque humain.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec votre manière de présenter les choses.
En même temps, je suis animatrice, vous ne pouvez pas me dire non, parce que...
Ah,
si, vous pouvez,
peut-être la question
hein.
Suivante.
Non, mais vous pouvez, oui, oui, vous pourrez.
Oui, tout à fait. Le personnage qui est le mien, donc celui qui va rentrer dans le métavers, je vous ai dit que c'était un musicien raté, etc. C'est quelqu'un qui... C'était le point de départ dont je voulais partir. Pour moi, c'était très important. C'est quelqu'un qui n'aime pas la réalité, pas pour des raisons métaphysiques ou philosophiques, mais tout simplement parce que le réel ne lui a pas fait de cadeau. Et qui ressent envers la réalité du ressentiment, de la rancune, et même une forme de colère ou d'envie de revanche, qui s'est senti humilié, qui s'est senti ignoré, qui s'est senti... pas épanoui dans le monde réel, et qui se définit lui-même comme un pauvre type vivant dans un monde de cons. Ça aurait pu être, dans une version un peu plus vulgaire, ça aurait pu être le titre du livre. C'est-à-dire que, vraiment, ce que je voulais montrer, c'était d'écrire, mais encore une fois, sans la juger, sans la décrire même sous un jour spécialement noir, mais d'écrire la victoire du monde virtuel, la victoire des réseaux sociaux, la victoire de ces nouveaux empires que sont les GAFAM, que sont Facebook, que sont Instagram, que sont Twitter, que sera demain le métavers, la décrire vraiment comme une captation de toute la colère, de toutes les névroses, de toutes les petites minuscules souffrances, pas forcément des grandes souffrances, qui peuvent être engendrées par notre monde réel. Et donc, en effet, c'était ça ce que je voulais faire. C'était pas tellement un roman noir, mais c'était un roman sur l'humanité quand elle peut, si vous voulez, se lâcher. Et quand elle peut prendre sa revanche dans un espace virtuel où elle n'a pas à payer de sa responsabilité de ce qui lui existe, arrive dans la réalité. Pour l'écrire, ce roman, je me suis beaucoup, comme le métavers n'existe pas encore, même s'il y en a quelques-uns, mais je me suis surtout inspiré, vraiment, enfin, j'ai passé des nuits entières, des semaines entières, des mois entiers, à me plonger sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur tout ce qu'il y a sur Internet, et même, entre guillemets, sur les sites les plus obscurs, les forums, si vous voulez, voilà. Et j'ai été vraiment fasciné par la violence qui y règne, par la radicalité qui y règne, par le fait que quand vous lisez ce qui peut s'écrire sur les réseaux sociaux, ici ou là, vous sentez bien, alors c'est purement intuitif, mais que les gens qui peuvent écrire des choses aussi violentes, par exemple sur Twitter, dans la vie, ne se permettraient jamais de le faire. Pas parce que, même pas par peur de la punition ou par peur de la sanction, mais parce que ça ne leur traverserait pas l'esprit d'être violent dans la vie. Et si vous voulez, cette sorte de division totale entre un réel de plus en plus terne, de plus en plus maussade, et un virtuel où tout est possible, c'était aussi peut-être le sujet un peu central de mon livre. Autre sujet dont il est question, un peu de manière souterraine, par exemple, parce que c'est au cœur de ça, sur la volonté de puissance, c'est la question du désir. L'univers que je décris dans mon roman, c'est un univers sans sexe et sans même désir de sexe, qui évidemment contraste avec l'empire de la pornographie qu'on peut trouver sur les écrans.
Il y a un petit truc quand même sur le sexe dans votre livre.
Mais oui, mais il a quasiment jamais de désir, mon personnage. Il en a un tout petit peu à la fin.
Il y a une combinaison qui souffre quand même.
Oui, mais justement, c'est à la toute fin.
Oui.
Mais sinon toute la traversée du roman est un moment sans désir. Ouais.
Mais il y a l'argent.
Oui. Alors l'argent...
C'est qui remplace, enfin...
Oui.
Oui, il y a le désir d'argent. Enfin, c'est très libidineux quand même, comme rapport à... C'est une jouissance aussi, l'argent, dans cet anti-monde.
Oui, tout à fait.
Ouais. Enfin, on est en train de laisser tout le monde, donc on en parlera tout à l'heure sans doute. Mais Guillaume, je voulais regarder avec beaucoup d'intérêt ce que disait Nathan. Et en effet, il y a quelque chose dans le rapport au réel, puisqu'il parle très bien du réel et de la maladie du réel, peut-être. Et je voulais savoir comment vous placeriez votre personnage dans cette perspective. Parce que votre personnage, il est en HP. Alors qu'en réalité, il nous semble aller plutôt pas mal, en tout cas jusqu'à un certain point du livre.
Oui, il y a deux choses. Toi, Nathan, tu dis que dans ton livre, il y a une absence de désir. Moi, je pensais au fait qu'à l'inverse, je voulais écrire, moi, un narrateur qui est en permanence mu par le désir, notamment par la volonté. Tu parlais aussi de revanche. Ça, c'est tout à fait commun à mon sens, puisque c'est d'ailleurs la première phrase du livre que le narrateur dit qu'il porte en lui toute la révolte tue et l'oppression de certains subis avant lui. Donc c'est un lui, si vous voulez, dans son réel à lui, ce qui le fait avancer, c'est ce désir, cette quête, et c'est une quête vers la liberté, puisque en fait c'est un roman que je définis comme ça. Je peux le définir comme un roman d'amour, mais aussi comme la quête de liberté d'un narrateur qui, coûte que coûte, dans un réel qui ne lui correspond pas, un réel qui ne veut pas de lui, malgré tout, c'est un cheminement vers cette liberté qu'il veut conquérir et qu'il veut maintenir. Parce que oui, effectivement, il se retrouve dans des lieux d'enfermement, y compris dans un foyer qu'il vit comme un lieu d'enfermement, et dans un hôpital psychiatrique. Et dans ces lieux d'enfermement, sa liberté à lui, justement, elle passe par le désir qu'il peut retrouver à l'intérieur comme à l'extérieur, dans le monde extérieur à ces lieux d'enfermement, c'est le désir qui lui est commun.
Si je puis me permettre, je n'étais pas tout à fait d'accord avec vous tout à l'heure quand vous avez parlé d'un livre, vous vouliez parler de l'homophobie. Et je trouve que, pardon, mais votre livre, il est bien au-delà de ça. C'est-à-dire
J'espère.
Que, oui, C'est pas du tout, c'est vraiment un livre sur le rapport à la conformité et aux limites que le réel se pose dans ce qu'il est capable d'embrasser, en fait. C'est un livre sur la différence ou la singularité, plutôt, qui n'est pas acceptée dans notre monde. On en revient finalement à quelque chose d'assez... Et on verra comment Maria peut aussi correspondre à ça. Enfin, vous voyez,
évidemment, quand je parlais d'homophobie comme un point de départ, c'est-à-dire que c'était le point de départ de ce sur quoi je voulais écrire. Mais il était évident que je ne voulais pas écrire un livre sur l'homophobie, et ne serait-ce que d'écrire un livre qui dirait l'homophobie, c'est pas bien. Enfin, je veux dire, c'est absolument pas mon ambition, et d'ailleurs, je pense pas que la littérature doit l'avoir. Je pense
oui,
même qu'elle ne doit
pas
avoir
morale,
quelconque
c'est ça.
Ambition. Voilà. Ouais. C'est ça, évidemment. Il fallait que ce soit évidemment beaucoup plus large que ça, et que ce soit effectivement toute, j'allais dire, toute une identité, et une identité peut-être différente, hors norme, qui soit mise en difficulté, questionnée, rejetée, bien sûr.
Oui, c'est ce que, quand on aime beaucoup un livre, on se permet d'entrer dedans et de s'approprier ce que je suis en train de faire. Maria, il y a une phrase dans votre livre que vous citez. Alors d'abord, peut-être, est-ce que...
Je crois savoir quelle phrase c'est. Elle est en anglais.
Avant la phrase, juste avant la phrase, je trouve qu'il y a aussi dans le parcours que vous racontez, et qu'on ne racontera finalement pas, mais on peut quand même réfléchir à cette question-là, c'est les histoires qu'on se raconte dans le livre de Nathan. La frustration dans le monde réel fait qu'on va pouvoir avoir se raconter une histoire, se placer à travers son avatar, devenir exactement ce qu'on croit désirer être. À la louche, hein, ouais. Mais vous aussi, vous êtes dans une... votre personnage... il est aussi saisi dans une histoire qu'on lui a racontée et qui n'est pas la vraie.
Oui, absolument. C'est la construction et déconstruction des mythologies familiales, en fait. Tu es né par césarienne, il y avait de l'orage, et l'accoucheur est arrivé trop tard, tu es né dans un taxi, tu t'es désiré, tu n'étais pas désiré. Enfin, je veux dire, on est tous avec voilà, ce petit bagage, ces histoires qu'on nous raconte et qu'on nourrit les soirs de fêtes de famille où on se re-raconte et re-raconte des naissances et tout ça. Et oui, là, l'idée, c'était de les revisiter, les reconstruire et voilà, éclairer les zones d'ombre de ces mythologies familiales.
Et finalement, se raconter sa propre histoire à partir de l'enquête qu'on en a fait.
Oui.
Hier, j'ai animé une rencontre où on m'a dit que enquête et histoire avaient la même racine. Alors parlons de cette phrase.
La phrase de Jeannette ?
Ouais.
Ok.
Alors allez-y.
De l'importance de se faire dédicacer des livres. C'est vraiment cool d'en parler ici à Brive, à la Foire du Livre, parce que Jeannette Winterson, qui est une écrivain britannique, qui a été très importante pour moi, sa lecture a vraiment m'a sauvé la vie, hein, littéralement. Ça a été très, 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 très important. C'est une des premières femmes à avoir étudié la littérature à Oxford. Elle a été adoptée par un couple de pentecôtistes. Elle a écrit son premier roman à 27 ans, je crois, « Les oranges ne sont pas les seuls fruits ». Et ensuite, à la cinquantaine, elle a écrit un essai sur sa trajectoire de femme, d'autrice, de lesbienne et d'enquête d'origine aussi. Et pourquoi être heureux quand on peut être normal ? Et après la lecture de ce livre, je me suis dit, tiens, il y a quelqu'un qui parle comme moi. Je me suis reconnue et j'ai été la voir et j'étais tremblante comme ça. Je faisais la queue comme peut-être vous tout à l'heure avec d'autres auteurs que vous aimez. J'avais mon livre, je tremblais et je lui tends l'exemplaire et je lui dis, vous avez vraiment changé ma vie avec votre livre. Ça a été très important, c'est comme un talisman pour moi. Et je partage une partie de... On partage la même histoire. Et ça me fait du bien de dire à quelqu'un qu'on partage la même histoire. Et elle me regarde comme ça, et je la vois prendre son stylo et écrire, et elle écrit cette phrase que j'ai remise dans le livre, qui est « We can change the story because we are the story. » On peut changer l'histoire parce que nous sommes l'histoire. Et je lis pas tout de suite la dédicace, et c'est en sortant de la librairie que, enfin, je sais pas si vous lisez tout de suite les dédicaces, ou si vous attendez, on est un peu honteux, on a l'impression qu'il peut y avoir un message caché, un 06 peut-être, une adresse mail, un compte Insta. Mais voilà, donc j'étais très, très nerveuse, fébrile. Comme une groupie, quoi. Et j'ai lu cette phrase, et pareil, c'était comme la prof de français, c'est une phrase qui m'a vraiment aussi dit « prends le pouvoir » et qui m'a autorisée d'utiliser la fiction pour raconter ma véritable histoire et revisiter mon identité.
Qu'est-ce que cette phrase, je trouve que cette phrase va très bien avec vos livres aussi, Guillaume et Nathan, quel sens vous lui donnez à la lumière, j'allais dire à l'ombre, mais à la lumière de vos textes. Plouf, plouf, Nathan.
Oui, je ne connaissais pas cette phrase.
C'est une dédicace. Hein, dédicace.
Oui, mais elle rentre en résonance. J'ai beaucoup aimé dans le passage que tu as lu cette notion de non-vie et d'autres vies, de vie possible, et qui est au cœur aussi de cette phrase en anglais de qu'on est l'histoire et que donc l'histoire peut toujours changer. Moi, c'est ce qui m'intéresse aussi beaucoup, que ce soit quand j'écris vis-à-vis d'un personnage, que ce soit même quand je rencontre quelqu'un avec des amis, en société, etc. Ce qui m'intéresse, moi, pour comprendre les gens, c'est pas tellement de savoir ce qu'ils ont fait de leur vie, qui ils sont, quelles sont leurs habitudes, quels sont leurs goûts, quels sont leurs amis, quelle a été leur biographie, entre guillemets. Mais moi, c'est vraiment l'inverse. C'est-à-dire, on a tous en nous des identités qu'on n'a pas eues, des occasions qu'on a manquées, des autres personnes qu'on aurait pu être. Et soit on n'a pas voulu les être, soit on n'a pas eu l'occasion de pouvoir devenir les êtres. Mais en tout cas, on a tous en nous, je dirais, des, entre guillemets, des spectres, ou ce que j'appellerais une contre-identité, ou un anti-moi d'ailleurs. Et justement, c'est ça que je trouve extrêmement romanesque, c'est de voir l'ombre des gens, leur anti-biographie. Et en effet, ce qu'il y a de romanesque, c'est qu'à partir du moment où on est l'histoire en marche, où on peut la changer, il n'y a rien de plus fascinant que de voir certaines personnes, ça peut être des personnages, ça peut être des gens dans la vie, qui presque du jour au lendemain, ou très brutalement, comme ça, ils ont des métamorphoses, et ils deviennent celui qu'ils n'ont jamais pu être. Et ça, c'est le réel prévoit toujours des surprises comme ça, ou des non-surprises. Il y a des gens qui passent toute leur vie à côté de la personne qu'ils auraient aimé être, vraiment à côté, comme ça. Et c'est absolument, moi, ce qui me fascine le plus quand je m'intéresse à quelqu'un, pour essayer de le comprendre.
Guillaume ?
Bah sur ces non-vies, justement, je pense dans mon roman, Guillaume, justement, s'invente un alter ego dont je parlais tout à l'heure, aussi pour se dédoubler, en fait, comme une sorte peut-être d'autre univers, en tout cas, pour vivre de vie. En tout cas, il tient beaucoup à ça, et c'est quelque chose qu'il veut maintenir, encore une fois, même dans des lieux d'enfermement, pour avoir cette autre vie possible, cette autre identité possible, cette autre incarnation possible. Ça, c'est quelque chose qu'il veut maintenir, coûte que coûte.
Nous sommes notre propre histoire, donc on a tous les...
Oui,
toutes les pouvoirs et toutes les libertés.
Oui, et d'ailleurs, c'est une... Voilà, une phrase d'empouvoirment, comme j'ai entendu, oui, comme j'ai entendu récemment, l'utilisation de ce terme. Lui, il notamment à travers son identité et son orientation sexuelle, lui, c'est quelque chose qui ne lui pose jamais aucun problème. Et c'est aussi quelque chose qui, chez ce narrateur, surprend. C'est-à-dire que le regard des autres veut lui accoler une résonance compliquée à cette affirmation, à cette identité affirmée très jeune, etc. Lui ne voit aucun problème. Et lui veut maintenir le fait que voilà, c'est comme ça et les choses vont ainsi, sans problème. Les problèmes ne viennent pas de lui, si je puis dire.
Ils vont tuer vos fils, Guillaume Périllou, aux éditions de l'Observatoire. Les liens artificiels de Nathan Devers chez Albin Michel. Et Les gens de Bilbao naissent où ils veulent, de Maria Larrea. Chez Grasset, l'exercice de la liberté est un exercice compliqué que vous avez remporté avec Beaucoup de bonheur, en tout cas pour le lecteur, ça c'est certain. Et on n'a pas fini de vous voir, ça c'est aussi notre certitude. Merci beaucoup d'avoir été nos révélations 2022 lors de cette 40e édition de la Foire du Livre de Brive. Merci à vous.